France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Dominique Paturel, grande figure de la vie théâtrale depuis les années 50. Il a su conjuguer Jean Vilar et le boulevard, mais aussi la radio, les séries télé, le doublage, où il fut notamment JR de Dallas. Dominique Paturel, fou de musique, a également croisé sur son chemin Léo Ferré, Jacques Loussier ou Duke Ellington. Il nous le racontera dans quelques instants. Mais en ce début de week-end, je me dois d'aborder, pour commencer, la question diététique.
Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vis dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout bas.
Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes qui croquent et grignotent, quand l'appétit va tout bas. Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé, on ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger.
Quand l'appétit va tout bas, pour la santé y'a que ça. La pire émotion c'est quand on a son estomac dans les talons.
Les petits coins frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro, pour manger et boire, font jouer dimanche soir. Quand l'appétit va tout bas.
Cléo, j'aime ton nez mignon, j'aime aussi les champignons, et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va tout bas. L'appétit va tout bas.
Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand l'appétit va,
tout va.
Veuillez rendre hommage
au glorieux fromage.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent.
Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas, braves gens, l'appétit vient en mangeant. Vis dans les futailles, y'a nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va.
Et vous avez reconnu le sympathique Roger Carrel avec son complice Jacques Morel dans les rôles d'Astérix et Obélix. On a beaucoup parlé depuis sa disparition hier de la voix de Roger Carrel, mais il avait aussi enregistré quelques chansons comme celle-ci dans le film Astérix et Cléopâtre, musique de Gérard Calvi sous la direction d'Yves Prin. Et puis tiens, je voudrais en profiter pour donner un coup de chapeau à quelqu'un dont on a beaucoup moins parlé cette semaine. Sa mort n'a même pas encore été annoncée. Pourtant, c'était un grand musicien. J'avais eu le plaisir de le recevoir l'an dernier, de l'accordéoniste Louis Corchia.
Thank you.
La belle valse des orgueilleux de Paul Misraki, un enregistrement de 1953 avec donc à l'accordéon Louis Corchia qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cet enregistrement et beaucoup d'autres dans le disque récent Louis Corchia, les archives de l'accordéon, concocté chez Marianne Mélodie par notre ami Dany Lallemand.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et en évoquant, voici un instant, Roger Carrel, je rappelais qu'il avait été une immense star du doublage, mais c'est aussi le cas de mon invité aujourd'hui, qui fut J.R. de Dallas, Terence Hill, Michael Caine et tant d'autres acteurs, sauf qu'il a eu aussi, et d'abord, une très très grande carrière au théâtre et à la télévision, depuis le TNP, la compagnie Renaud Barreau, jusqu'aux émissions au théâtre ce soir et à quelques séries fameuses. Il a aussi rencontré beaucoup de musiciens, il aime la musique, c'est pourquoi je l'ai invité ce matin. J'ai la joie d'accueillir Dominique Paturel.
Courir le monde en long, en large et en travers, toujours répondre aux vœux des princes de la terre. Chevaucher, naviguer, décoller, s'envoler, c'est un jeu, mes aïeux, pour celui que je suis. Sans me vanter, je suis, je reste le meilleur. J'ai inventé la lampe à ressouder le beurre. J'ai ouvert l'Atlantique, découvert l'Amérique. Et colon, mon colon n'était qu'un polisson.
Amis chantez, amis chantons, les aventures du baron. Amis levons nos coupes pleines aux exploits du baron de Munchausen.
À cheval sur un maigre boulet de canon, j'en suis sûr, déjà franchi le mur du son. En avance souvent sur les ondes, à présent je suis resté modeste et mon cher, j'en suis fier. Tous les exploits, j'en suis capable évidemment, mais pour la joie des tout petits et des tout grands. Quand il y a de l'extraordinaire dans l'air, le baron, mon garçon, c'est certain, n'est pas loin.
Amis chantez, amis chantons, les aventures du baron. Amis le bon, nos coupes pleines aux éclats du baron de Munchausen.
Bonjour Dominique Paturel.
Bonjour.
Vous avez énormément joué, presque tout. Vous avez chanté sur scène assez souvent, mais vous n'avez pas beaucoup enregistré de chansons. J'en ai quand même trouvé une dans notre discothèque de Radio France. C'est cette chanson des aventures du baron de Munchausen.
Ben oui, tout à fait. C'est le générique du dessin animé de l'adorable Jean Image, avec qui travailler était un bonheur. J'avais fait aussi son second dessin animé, Les Sélénites. Mais là, c'est la chanson du générique.
Et c'est une chanson de Michel Legrand, quand même.
La musique de Michel Legrand. J'ai découvert, cette année, c'est avec 20 ans de retard, presque, j'ai découvert que les paroles étaient de ce merveilleux auteur, Claude Lemel. Et Claude Lemel a découvert, en même temps que moi, il m'a dit, mais c'est pas... Mais oui, c'est moi qui chante. Il n'avait pas réalisé que c'était moi qui chantais, car je chante en truquant la voix, qui est celle du dessin animé.
Mais voilà.
Qui était une gueule très particulière, très marquée, très comme ça. Donc ça mettait une difficulté de plus pour la chanson.
Voilà, mais ça vous connaissiez en même temps très bien le métier, parce que vous avez tout fait. Vous disiez dans une interview, ma vie c'était le matin doublage, l'après-midi tournage, le soir théâtre.
C'est vrai.
Donc vous étiez rodé vraiment à toutes les formes de voix, tous les exercices.
Oui, mais enfin là, pour l'enregistrement de ce générique, j'avais rencontré Michel Legrand quelques jours après, qui était un homme assez pressé, qui était sur 50 choses en même temps, ou à peu près, et qui m'avait dit, écoutez, voilà la partition. Je lui ai dit, mais je lis pas une note de musique. Il me dit, ah bon? Ben, je dis non, je suis désolé, mais... Il me dit, bon, ben, je vais vous faire une cassette, je vais vous enregistrer. Il m'a enregistré au piano la musique, si j'ose dire, que j'ai appris par cœur. Et le matin de l'enregistrement, je suis arrivé au grand studio Ferber, et je suis arrivé là avec le grand orchestre de Michel Legrand, les doubles six, toutes les chanteuses qui chantaient avec lui. Je suis arrivé dans cet ensemble et je vois Michel Legrand qui se met au piano, qui me dit « bon ben on y va ». Et voilà, et une prise. Il me dit « ça va, c'est bon ». Je lui dis « écoutez non, j'étais mort de trouille et de trac, j'ai les jambes qui tremblaient, je lui dis « on va peut-être essayer d'en refaire une ». Alors on en a fait une deuxième qu'il a bien voulu accepter de faire.
Je suis content en tout cas de vous recevoir. voir, j'y pensais depuis longtemps, parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un qui avait commencé le métier dans une époque où le théâtre savant et le théâtre populaire étaient moins séparés qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez passé votre vie à aller de l'un à l'autre, des textes recherchés, oui, au divertissement et réciproquement.
C'est vrai, mais aussi que je suis peut-être une petite exception à la règle, oui. Car je connais peu de comédiens de ma génération qui ont pu passer facilement des grands classiques au boulevard.
Voilà, c'est
sans
ça.
Qu'on leur en veuille.
Sans qu'on leur en veuille, oui, c'est ça, oui.
Alors que moi, je suis passé de d'Audiberti à Roussin,
voilà, c'est ça.
À Beaumarchais, à Molière, à toutes les grands textes, quoi.
Mais peut-être parce que vous aviez une grande cote de sympathie. Moi, j'ai lu les articles sur vous. Tout le monde vous décrit comme un homme charmant, sympathique, avenant, avec qui on se sent bien.
Je pense que ça fait partie des dons que le bon Dieu a bien voulu me donner.
Voilà. On va, en tout cas, évoquer aujourd'hui, Dominique Paturel, quelques aspects de ce long parcours. Je le disais, principalement de théâtre, de télévision, de cinéma, de doublage. Moins de musique, même si vous nous l'avez tout de suite dit, vous avez chanté au théâtre.
Beaucoup, oui.
Et même si la musique a été importante dans votre vie plus largement.
Ah oui, oui. Ouais. Oui, j'aimais la musique profondément, j'en écoutais énormément, et toutes sortes. Et ma vie a été sans arrêt ponctuée, soit par le music hall que j'adorais, oui. les variétés, les choses comme ça. Le jazz, beaucoup, qui a été ma jeunesse et mon enfance, comme tous les gens de cette génération. La libération avec les Américains, les V10 qu'ils amenaient dans leur bagage et qui nous ont fait découvrir les grandes formations, les grands orchestres. Et les Duke Ellington et tous ces gens.
On va en reparler du Duke, parce que vous avez même travaillé avec lui. Oui. Mais on va d'abord remonter dans votre plus tendre enfance avec cette chanson. Comme vous avez grandi au Havre, je pensais que vous nous sortiriez une chanson normande. Mais en fait, vous avez choisi, vous allez nous dire pourquoi après, une chanson bretonne.
Du foyer bien près de moi t'asseoir, Yvonne. Disons-nous adieu par ce lugubre soir d'automne.
Tu ne parles demain
car le vent s'est nuit, Véronne. Tu iras ton cœur gros d'angoisse et d'ennui, courante. Puisque mon gros bateau doit m'emporter bientôt, Guénabo, dans un dernier sanglot quittons-nous sur ce mot. À pleurer, regrettant son garçon, ma mère, fait mollir sa peine avec une chanson légère. Reste à ses côtés, chaudement bien serré contre elle. Ne me retiens pas quand un devoir sacré m'appelle. Mon gros bateau doit m'emporter bientôt, Guénabo. Dans un dernier sanglot, quittons-nous sur ce mot. Mon gros bateau doit m'emporter bientôt, Guénabo.
les amateurs auront reconnu Théodore Botrel, le spécialiste de la chanson bretonne.
Que je préfère dans ce genre de registre que dans Paimpol et sa falaise.
Paimpol et sa fameuse falaise.
Qui n'y existe pas, bien sûr.
Dominique Paturel, en tout cas, voilà, c'est une chanson qui remonte pratiquement aux années de votre tendre enfance, au début des années 30.
Mon père, qui était breton des Côtes d'Armor, d'un petit village qui s'appelle Pordic, où d'ailleurs il repose pour l'éternité, mon père avait un phonographe qui faisait partie beaucoup de sa vie, car il adorait la musique, il écoutait beaucoup les grands disques de l'époque. Et ce phonographe a après joué un rôle très important parce qu'il a été l'instrument qu'on me faisait amener dans toutes les surprises parties de l'époque pour faire danser tous mes camarades. Et quand j'étais petit, mon père me mettait souvent le soir cette chanson « Kenavo ». Et il y avait sur ces disques 78 tours une étiquette. Et c'était la voix de son maître. Ouais. Et il y avait un petit chien sur cette étiquette qui était assis devant un énorme phono et qui écoutait la musique visiblement. Et mon père avait cette idée géniale. Il avait inventé pour m'endormir et me calmer le soir tranquillement une histoire qui était l'histoire de ce petit chien.
De ce chien, c'est extraordinaire.
Qu'il appelait la voix de son maître.
C'est
et
joli.
Pendant des mois, il m'a raconté l'histoire, l'épopée du petit chien, la voix de son maître. C'est pour moi lié. Non seulement il y a la chanson, mais il y a l'histoire du petit chien qui était dessus.
C'est très, très joli. Alors, on sait que quand on voit votre biographie, Dominique Paturel, vous avez passé toute votre jeunesse au Havre. Vous nous dites que vous êtes breton parce qu'il y avait au Havre, en fait, une importante,
colonie bretonne. Hein. C'était presque 70% de la ville.
À cause de l'activité
du port.
À cause
des paquebots.
Oui.
Car les hommes étaient marins sur les paquebots, mais les femmes étaient femmes de chambre, serveuses, etc. Il y avait la paroisse bretonne Saint-François, et il y avait une aumônerie bretonne, dont mon père d'ailleurs était responsable.
Et voilà.
C'était lui qui était chargé de trouver un aumônier breton, parlant un peu français, mais surtout pouvant confesser, prêcher en breton.
Et alors une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez été ensuite, tout de suite après la guerre, élève à l'institution Saint-Joseph, établissement religieux du Havre. Et c'est là que s'est développée votre vocation théâtrale, je dirais vraiment encouragée par les curés. Hein.
Poussée,
ce qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui dans l'image qu'on se
poussée,
fait.
Poussée, vraiment. Car il y avait un professeur que j'avais en première et en philo, qui était professeur de latin grec et de français, l'abbé Micot, qui était d'une famille du Havre, les imprimeries Micot, qui étaient bien connues. Et cet homme était un fanatique de théâtre.
Voilà.
Il adorait le théâtre et qu'il répandait comme la bonne nouvelle.
Ouais.
Il nous a fait découvrir tous les grands auteurs dramatiques, même modernes.
Ouais.
Et tous les ans, le 2 février, qui était la fête du collège, il montait un grand classique avec nous autres, les élèves. Et c'est là où j'ai débuté dans le rôle du maître à danser du bourgeois gentilhomme.
Voilà.
Qui a été une des premières fois où on a commencé à me remarquer, à faire parler de moi. L'année d'après, il m'a fait jouer Crispin du Légataire universel, qui était un rôle gigantesque. Et puis après, à l'époque où j'étais déjà élève au centre du spectacle, la fameuse rue Blanche, je suis revenu monter les Marivaux et je suis revenu monter Fantasio après.
C'est d'ailleurs un autre prêtre de cette école qui a quasiment persuader vos parents qu'il fallait vous laisser faire des études de théâtre.
Le chaman Tebeg était le supérieur de ce collège, qui avait mis son plus beau camail et qui était venu frapper à la maison en disant à mes parents, il faut absolument ne pas empêcher le petit Dominique de faire du théâtre. C'est sa vocation, c'est ce pourquoi il est fait. Et mon père lui a dit, mais il n'est pas question, non seulement je ne l'empêcherai pas, mais je l'encouragerai de toutes mes forces. Car mon père était quelqu'un qui adorait le théâtre. À chaque fois qu'il venait à Paris pour ses affaires, il passait deux soirs au théâtre. Il adorait le cinéma, il faisait partie du premier club de cinéma qu'il y a eu au Havre. Il a été un des coproducteurs pour Frison Roche de Premier de Cordée. Il a été fou de cinéma, il m'a fait découvrir tous les grands classiques. C'était un homme qui adorait ça.
Voilà, donc on peut dire que votre vocation a été bien soutenue et encouragée. Et je propose qu'on fasse, avant de quitter le Havre pour Paris, de monter à Paris avec vous, qu'on fasse un petit détour encore par le Havre avec la voix de Léo Ferré.
Ah oui.
Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer, et les bateaux se navrent d'être toujours seuls sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu, ils s'aiment sans s'en faire, comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. J'irai en Angleterre pour voir les grands bateaux qui font le tour de la terre comme le font les petits oiseaux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. La 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 la.
La belle voix de Léo Ferré dans Les Amoureux du Havre, le Havre, donc Dominique Pasturel, votre ville natale. Et il faut dire que Ferré aussi, il avait une raison d'être dans cette émission, parce que quand vous êtes monté à Paris, vous avez entendu assez vite ce chanteur pas encore connu.
C'est-à-dire que cette chanson magnifique que j'adore, le succès de cette chanson a été fait non pas par Léo Ferré, mais par Eddie Constantine.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui a rendu populaire cette chanson, bizarrement, alors que Léo Ferré la chante avec une sensibilité extraordinaire, et Eddie Constantine avec son accent américain,
c'est vrai,
qui n'avait pas grand-chose à voir avec le texte, l'a rendu très populaire. Et moi, j'ai rencontré Léo Ferré parce qu'au début, à ma génération, presque tous les comédiens, que ce soit Poiret, Serrault, Marielle, tous ces gens-là, Guy Bedos, ont commencé par le cabaret.
Bien sûr.
On avait monté avec des élèves de la Rue Blanche un Garcia Lorca qui était un petit spectacle, leur étape de Don Cristobal, qui était une pièce faite pour des marionnettes et qui on avait adapté avec des comédiens. Et on l'a joué dans énormément de cabarets à Paris, chez Gilles, un peu partout. Et dans un petit cabaret qui se trouvait sous le café Mabillon, au métro Mabillon. Et donc j'allais là le soir pour y jouer à 2h du matin. Et il y avait toujours dans le hall d'entrée, il y avait un pianiste qui accueillait les gens avec la soucoupe sur son piano, et avec qui j'avais sympathisé, qui était charmant, gentil. Et puis un jour, il me dit, oh bah tiens, écoute, aujourd'hui j'ai écrit une chanson, je vais te la faire entendre. Il se met au piano et il me joue, mets ton habit scaphandrier et descends dans les yeux de ma belle. Oh, je lui dis, c'est génial. Il me dit, ben oui, ça te plaît. Oh, je lui dis, oui, j'adore, c'est merveilleux. Je lui dis, c'est un tube, ce truc. Il me dit, penses-tu, tout le monde s'en fout. Je lui dis, non, non. Et j'ai su après, mais quelques années après, que c'était Léo Ferré.
C'est extraordinaire. Donc, vous faites vos études à Paris, dans Rue Blanche, qui était la grande école, mais aussi parfois la porte pour entrer au conservatoire.
La porte du conservatoire,
voilà.
Qui était une école nationale, en fait, de préparation, qui était l'école des arts du spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait avec nous des élèves décorateurs, des élèves régisseurs, des élèves du son, de la lumière, et des décors et tout ça. Et ce qui fait qu'il y avait un ravissant petit théâtre dans l'école où on montait des spectacles et où toutes ces catégories professionnelles participaient, bien sûr, avec les comédiens au montage d'un spectacle et on jouait des grands classiques.
Voilà. Et vous avez tellement commencé à jouer que finalement, quand vous avez voulu entrer au conservatoire, on vous a dit que vous n'en aviez pas besoin d'une certaine façon.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a même pas 3 mois après que j'étais entré au centre de la Rue Blanche, ils faisaient passer des auditions à leurs élèves. Ouais. pour leur trouver du boulot. Et un jour, ils me disent, il y a Héberto qui veut monter un centre dramatique en Normandie, qui était la seule région où il n'y en avait pas. Et il me dit, il cherche un Léandre des Fourberies de Scapin. Je vais passer l'audition chez Héberto et je suis reçu. Et on me dit, venez signer votre contrat demain. Je reviens le lendemain, je suis reçu par l'impressionnant maître Héberto, qui me dit, voilà ce qui se passe, c'était Jean Le Poulain qui devait jouer Scapin. Il est malade, il n'est pas à partir, je vous donne le rôle.
Ah oui, c'était pas mal pour commencer.
C'était pas mal comme début. Et donc, je suis parti en tournée pendant 3 mois, en Suisse, dans toute la France, en Belgique, aux Pays-Bas, en jouant Scapin. Je reviens 3 mois après, rue Blanche, pour reprendre mes cours, puisque normalement c'est 3 ans. Et là, on me dit, vous passez le concours de sortie. Je dis, mais je suis à peine rentré. On me dit, si, vous êtes prêt. Bon.
Ah bon,
je passe le concours de sortie, on me présente au conservatoire, où là, je suis brillamment recalé au 3e tour. Et je sors penaud, prêt à aller téléphoner à mes parents pour leur dire, c'est foutu, je rentre au Havre. Et je rencontre sur le trottoir René Simon, le célèbre René Simon.
Des cours Simon.
Qui faisait partie du jury et qui me dit, je bénis le ciel que vous étiez recalé. Je fais partie de ceux qui ont refusé de vous faire entrer. Ils vous auraient fait perdre tout ce que vous avez de bien de formidable.
C'est pas mal.
Il m'a dit, je ne suis pas inquiet pour vous, vous en faites pas. Ça va très bien se passer.
Et de fait, tout de suite après, eh bien, les rôles se sont enchaînés, sauf qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu, c'était le service militaire.
Ouais. Tambour battant, fleur au fusil, il va, il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine. Et puis voilà.
Et voilà donc Francis Lemarque, Quentin Soldat, parce que effectivement, Dominique Paturel, votre carrière a commencé très vite, mais il y avait aussi la guerre d'Algérie, il y avait les obligations militaires de tout jeune Français de votre génération, et donc vous êtes parti là-bas.
Oui, c'est-à-dire que j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie, avec une négligence coupable. Car si j'étais parti normalement avec ma classe, je n'aurais pas été rappelé, puisqu'elle n'a pas été rappelée.
Ah oui.
Elle n'a fait que 18 mois de service en France. Et là, comme j'avais oublié de résilier mon sursis, je suis parti à 25 ans et j'ai fait 28 mois tout en Algérie.
28 mois, oui.
Oui.
Et alors, c'est pour ça que vous avez choisi
d'arriver. Mais parce que c'est une anecdote très précise. Quand je suis arrivé, je me suis trouvé affecté, pas de chance, dans un tout petit camp militaire à Amamriga, qui était un endroit très mal placé, pas loin des gorges de la Chifa, célèbre pour ses attaques et ses problèmes. Le brave sergent qui nous a éduqués me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît une chanson qui pourrait faire une marche? Imprudemment, je dis moi. Et il me dit, c'est quoi? Je dis, ben, c'est ça. Et je chante, que je connaissais par cœur, la chanson de Francis Lamarck.
Oui, c'est pas très militariste.
Pas vraiment. Et nous apprenons à marcher au pas là-dessus. Et un jour, nous rentrons dans le camp, parce qu'on faisait toujours des exercices en dehors du camp. On rentre dans le camp fièrement, en marchant au pas sur cette chanson. Et bien sûr, sort le lieutenant qui commandait. Et qui a fait, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'entends? Quoi? Comment? Tata? Terminé.
Extraordinaire. Mais néanmoins, je dirais en Algérie, comme dans l'institution religieuse au Havre, vous avez eu des activités artistiques par la suite assez importantes finalement.
Ben, ça a été des miracles invraisemblables. Oui. J'ai été un beau jour réquisitionné à la télé. Oui. Un titre militaire, réquisitionné pour venir faire l'arbre de Noël des officiers supérieurs. Alors, j'avais pas de budget, on m'avait dit, vous ferez des notes, on les paiera. Et je me suis débrouillé avec un agent artistique sur place pour trouver un prestidigitateur, louer un costume de Père Noël, car je faisais la présentation, mais je faisais le Père Noël aussi. Et il y avait au premier rang tous les grands officiers supérieurs, Bijard, Salan, Tomaso, tout le carteron
des généraux dont parle de Gaulle après le putsch.
Ils étaient tous là. À la fin, félicitations, merci beaucoup, c'était formidable. Et puis un beau jour, on m'a dit, vous êtes convoqué à la radio. Mon chef m'a dit, je viens de recevoir un appel, il faut que je vous emmène à France 5, à Alger, Radio Alger. Et là, j'arrive, je suis reçu par le directeur de la télévision, qui me dit, monsieur Pierre Dux devait venir jouer les vignes du Seigneur pour la semaine prochaine.
Victor Boucher.
Il refuse de venir, il a peur, il ne veut pas venir. Je vous donne le rôle. Voici la pièce. Vous vous mettez sur la banquette là, vous avez une heure et demie pour la lire et vous me donnez votre réponse. On était le samedi, c'était pour le vendredi suivant en direct.
Eh oui.
Et avec Béatrice Bretty et Cossin Dupeu, sociétaire de la Comédie Française, qui avait créé la pièce avec Victor Boucher. Je lis et je dis de toute façon, même si c'est pas pour moi, même si j'ai pas envie, je le fais.
Bah oui.
C'est une occasion unique.
Et donc finalement, votre carrière a repris au service militaire.
Alors là, j'étais engagé, ça a suivi, on m'a réengagé. 15 jours après, c'était Julien Berthaud qui refusait de venir, on me donnait son rôle dans A souffert sous Ponce Pilate, Judas. Et donc j'ai enchaîné les choses.
Et vous avez aussi fait des rencontres musicales importantes en Algérie, et je pense notamment à celle de Jacques Loussier.
Alors voilà, à l'époque, il n'y avait pas de théâtres armés, il n'y avait rien. Et on avait organisé notre propre chef avec un de mes bons amis à vrai, Alain Lemeur, qui était un pianiste de jazz émérite et qui avait monté une formation de jazz à la musique de garnison. On montait des spectacles pour l'hôpital Maillot, pour les blessés. Et tous les mercredis soirs, on faisait un spectacle. Et là, un beau jour, on me dit, bah tiens, il y a un soldat que vous pourriez utiliser qui s'appelle Jacques Loussier, c'est un pianiste de jazz. Il est intéressant, vous allez voir, c'est intéressant. Et je vois Jacques, je lui dis, bah, c'est bien, vous jouez du jazz. Il me dit, oui, mais surtout, c'est en arrangeant Bach. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si, il se met au piano, il me joue et je reste stupéfait.
Thank you.
merveilleuse fugue en ré majeur du premier livre du clavecin bien tempéré, revisité évidemment par Jacques Loussier dans Playback, que vous avez découvert avant que le disque existe d'une certaine façon.
Mais c'est-à-dire que je suis à l'origine du disque, parce que le hasard a voulu, moi j'appelle ça le miracle qui m'a souvent accompagné toute ma vie, je suis engagé pour jouer une pièce à la télévision. On commençait le lundi pour le direct le vendredi soir. Après, quand j'ai fait les hauteurs de ce soir, on avait un mois, ça me paraissait le luxe invraisemblable. Et là, j'allais faire cette pièce en direct avec Max Derieux, qui était à l'époque le directeur artistique
de Deka.
Et je dis à Max, écoute, je voudrais te faire entendre quelqu'un. Je donne rendez-vous à Jacques Loussier à midi à la radio pour lui présenter Max Derieux. Et puis, je me dis, tiens, je vais fouiller, je me balade un peu dans les couloirs de France 5, qui n'était pas bien grand, et je trouve une porte de studio ouverte avec un piano. Et je dis à Max, entre là, je fais rentrer Loussier, je lui dis, écoute ça. Et Jacques se met au piano, et il lui joue. Bach en jazz. Max Rio reste sans voix, il me dit, je le signe tout de suite. Et ça a été le départ.
Et ça a été le premier disque en 1959, voilà. De Playback. Voilà. Donc vous êtes directement pour quelque chose, Dominique Paturel. Et vous avez d'ailleurs, on le redira tout à l'heure, retrouvé au fil de votre carrière Jacques Loussier, notamment pour des musiques de films. Mais votre carrière reprend à Paris et on sait, on en reparlera, que notamment le répertoire divertissant, le boulevard, va avoir beaucoup d'importance dans votre vie. Mais il y a d'abord les deux grandes troupes de l'époque dont vous avez fait partie. Et la première qui est celle du TNP avec Villard, la seconde, celle de Renaud et Barreau. Vous avez tout de suite été choisi pour des spectacles par ces deux grands messieurs.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire Villard, elle remonte un peu avant. Je venais de rentrer en Algérie, j'étais dans mon petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés avec ma prime de démobilisation de 50 francs, qui n'allait pas bien loin, même à l'époque. Et un soir, j'avais rencontré en Algérie, il m'avait demandé de venir aussi, là j'étais réquisitionné, pour aller illustrer une conférence qu'il faisait sur Beaumarchais. Et il avait besoin d'un Figaro pour donner les extraits du Barbier, etc. Et donc je fais la connaissance de Roussin pendant 3 jours. Nous allons à Oran, à Alger, etc. Et en partant, il me donne sa carte de visite. Il me dit, écoutez, j'étais ravi de votre collaboration. Appelez-moi dès que vous êtes démobilisé. Je mets la carte prudemment dans ma poche et je suis démobilisé 6 mois après ou 8 mois après. Et là, un soir, je me dis, j'arrivais au bout de mes 50 francs, faut que j'appelle Roussin. Il est 7h du soir, je vais téléphoner sur le boulevard Saint-Germain. J'appelle Roussin qui me répond aussitôt, allô, oui. Je ne sais pas si vous venez de moi, c'est Dominique Paturel. Il me dit, oh, mais c'est bien sûr, comment allez-vous? Oh, c'est drôle, ça tombe bien que vous appelez. Figurez-vous que demain, Suzanne Flonchert, son partenaire masculin, passe des auditions demain au Théâtre de Paris. Oh, mais il faut que vous alliez la voir. Je vais l'appeler et lui vous recommander. Il faut que vous alliez demain après-midi à 14h30. Je vais le lendemain à 14h30 au Théâtre de Paris, où il y avait tous les jeunes premiers de Paris. Il y avait Bruno Kremer, Belmondo, Cassel, tous les gens de ma génération qui étaient là. La trouille me prend, je pars. Et je vais dans un cinéma à la Chaussée d'Antin. À 7h du soir, je ressors péteux. Je me dis quand même, il faut que j'aille m'excuser. C'est Roussin qui m'a envoyé là, il faut que j'aille m'excuser. Je remonte, tout était éteint. Le concierge me dit, oui, c'est fini les auditions. Je dis, je voulais m'excuser. Il me dit, rentrez dans la salle, il y a encore Madame Popesco, Madame Flon. Et le metteur en scène, allez-y. Je rentre sur scène, je viens m'excuser, j'ai eu un contretemps. Mais comment me fait Popesco, on vous attend, et Roussin a parlé de vous, il paraît que c'est formidable. Elle me tend un texte, elle me dit, on vous écoute. Et je passe l'audition. Et j'entends Suzanne Flon qui fait, voilà, c'est ça.
oui.
Et Popesco qui me dit, c'est formidable. Malheureusement, c'est trop tard, on a engagé quelqu'un. Évidemment, on vous a pas pu venir. Ah, c'est dommage. Elle me dit, écoutez, alors là, c'est dramatique. Mais il y a un petit rôle à côté, le copain du jeune premier important. Si ça vous plaît, il est libre, on vous le donne si vous voulez travailler. Je dis oui, je le prends. Le lendemain, je viens pour signer mon contrat. Elle me dit, voilà, c'est arrangé. On s'est arrangé avec le comédien qu'on avait engagé. Il rend le rôle et on vous le donne. Et je joue à côté de Flon. Et au bout de 4, 5, 6 mois, Flon me dit, tu sais qu'il y avait ce soir dans la salle? Villard.
Et c'est comme ça qu'il vous a engagé?
3 mois après, à 7h du matin, j'ai un coup de fil. Allô, c'est Jean Villard. Et je crois que c'est un de mes copains, parce que c'était la blague courante qu'on se faisait. Allô, c'est Hollywood, est-ce que vous êtes libre? Dieu merci, je n'ai pas répondu. Sale con, qu'est-ce que tu fous? Ça m'a travaillé toute la journée. Le soir, je me suis dit si c'était vrai. Et j'ai rappelé Villard qui me dit, je vous attends, vous passez à la maison, votre contrat est prêt.
Et voilà, et vous avez donc été associé pendant plusieurs années à
3 ans.
Ces spectacles au TNP. Et on en a d'ailleurs un petit extrait que j'ai retrouvé sur un disque.
C'est pas vrai.
Où vous êtes avec Jean Villard dans une scène, on va juste en écouter un petit bout, de L'Avare.
Ah oui, La Flèche.
Que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps.
Tu murmures entre tes dents.
Pourquoi me chassez-vous?
C'est bien à toi, pandard, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme.
Qu'est-ce que je vous ai fait?
Tu m'as fait que je veux que tu sors.
Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre.
Va-t'en l'attendre dans la rue. Et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un traître, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler.
Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit?
La musique du Chevalier de Maison Rouge, une série télévisée de 1963, musique d'Antoine Duhamel. Cette émission d'ailleurs qui a beaucoup contribué à vous faire connaître au grand public, Dominique Naturel, ça a été vraiment...
du jour au lendemain, c'était incroyable. Ah oui.
C'est ça. La télévision avait un impact extraordinaire à l'époque.
Fantastique. Oui, c'est ça, oui. Et alors en plus, c'est cette émission sur la Révolution française, ce qui est la période quand même préférée des Français, faut bien le dire. Et puis les costumes, tout ça, les capes et d'épée, comme on disait à l'époque, c'était le succès assuré. Mais là, je dois dire que le succès a dépassé de très loin ce qu'on ne pouvait en attendre. Mais pour moi, ça a été un choc incroyable, car le lendemain matin de la diffusion du premier épisode, le dimanche matin, je suis sorti de chez moi, les gens me reconnaissaient.
Vous étiez une vedette. Alors, vous aviez déjà une carrière de théâtre de plusieurs années, mais ça n'avait rien à voir. Voilà. Alors ça, c'était donc, voilà, on en reparlera de ces séries télévision, mais celle qui vraiment vous a fait démarrer, et puis juste avant, donc, la voix de Villard avec vous, et la musique juste avant du TNP, qui était celle de Maurice Jarre, qui était le musicien de maison.
Qui était le musicien maison, bien sûr.
Vous l'avez beaucoup vu là-bas?
Souvent, tous les jours, vous voyez, c'était un homme merveilleux. C'était la plus belle époque de ma vie, j'ai adoré Jean-Louis Barrault, j'aimais énormément Jean-Louis Madeleine et cette compagnie à qui je dois d'énormes succès.
Un peu après, donc, le TNP.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais l'homme qui m'a marqué le plus dans ma carrière, c'est Villard.
C'est Villard, c'est ça.
Le contact avec lui était exceptionnel. C'était un homme qui vivait, respirait le théâtre, comme Jean-Louis d'ailleurs. C'était des passionnés l'un et l'autre. Tout à fait différent. Jean-Louis était beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus proche. Oui. Mais Villard était en fait quelqu'un de plus timide, quelqu'un de plus réservé, mais qui était capable d'une immense chaleur. Moi, j'étais très ami avec lui.
Et chez les Barreaux, alors il y avait un autre musicien, tout jeune.
Eh ben oui.
C'était Pierre Boulez.
Boulez,
oui, c'est ça.
On a assisté à la naissance de Pierre Boulez, bien sûr. Et de ses premiers concerts le dimanche matin.
Le dimanche matin, voilà, c'est ça.
Ah oui.
Alors, vous avez travaillé dans ces deux illustres compagnies qui résument à elles seules tout un moment du théâtre. Mais en même temps, quand vous étiez chez Barreau, ça ne vous empêchait pas aussi de faire des incursions sur le boulevard. Hein. Vous aimez bien les allers-retours.
J'ai eu, parce qu'il y avait des moments où Jean-Louis me disait ben, j'ai 3 mois où j'ai pas de rôle, comme il ne voulait me donner que des grands rôles.
Oui, disait... ça avait commencé avec Shakespeare, je crois.
Oui, avec... Oui.
Comme il vous plaira.
Comme il vous plaira, oui.
Et donc, vous, il y avait des mois de liberté, donc vous alliez...
Quelquefois, j'avais, quand il me disait, j'ai 2 mois ou 3 mois où j'ai rien d'important à te donner, je suis parti faire une incursion, ce qui me faisait aussi prendre un peu l'air.
Voilà. Et alors, vous avez finalement un goût que vous avez toujours assumé, à la fois, je disais, pour des textes ambitieux, hein, des François Billet-Doux, des Sarraud, des Sam Shepard, et puis le boulevard, le vrai boulevard, les classiques de la Biche et autres, mais aussi les modernes, vrais divertissements. Vous avez beaucoup joué avec Micheline Boudet, par exemple, et d'autres grands familiers du divertissement, notamment dans le théâtre ce soir. Vous aimiez ça, vous l'assumiez?
Ben, complètement.
C'était pas interdit quand on était chez Barreau d'aimer le boulevard.
Au contraire. Au contraire. Vous savez, il faut pas oublier que Barreau avait monté quand même.
Ouais. La vie parisienne.
La vie parisienne, c'est pas. Et Villard avait monté Loin de Rueil, cette comédie musicale de Maurice Jarre.
Vous aviez un emploi type, le jeune premier à vos débuts?
Oui, j'avais ce qu'on appelle l'emploi de grand valet, les Scapins, les Figaro, etc. Mais en même temps, un emploi aussi de jeune premier comique.
Voilà.
Qui m'a permis d'avoir un éventail. Mais aussi la tragédie.
Oui, bien sûr.
Puisque j'ai joué quand même le Christ, il n'y a pas plus dramatique.
Oui, ça finit mal, mais ça s'arrange encore après.
Oui, mais moi j'ai joué la Passion d'Haraucourt à la télévision à Alger.
On va peut-être retourner faire un petit tour dans ces cabarets de l'époque que vous avez évoqués pour nous, Dominique Paturel. J'avais envie, c'est un choix personnel, mais je trouve ça tellement drôle de passer un petit extrait de La Vie de Chopin par Poiret et Serrault.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous les avez bien connus et bien aimés.
J'étais très ami avec Jean Poiret.
Oui.
On se retrouvait régulièrement tous les mois chez le même coiffeur.
Oui.
Et donc, c'était des moments à pleurer de rire. Et Jean était un homme merveilleux.
Et là, donc, voilà, c'est cette évocation d'une interview.
Et Serrault m'avait demandé de jouer la flèche avec lui.
Ah oui.
Mais je n'avais pas voulu parce qu'il y avait eu un micmac de fait dans la mise en scène. Le metteur en scène avait changé l'ordre des actes de l'avare, ce qui m'avait paru inadmissible.
Ah oui, il y avait déjà ce genre de choses.
Il commençait la pièce par l'arrivée de la flèche et je m'étais refusé à ce salmigondi.
Viendrons maintenant ici un peu pour te tremper dans l'ambiance française, puisque tu es quand même de souche française, il ne faut pas l'oublier, te reposer un peu.
Pas très 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 longtemps, parce que je viens surtout en France quand même pour tourner. Je sais pas, je commence dans une 8aine de jours.
Ah, tu tournes encore ici?
Oui.
Ah
bah, oui.
Vraiment à l'insable. Tu viens tourner quoi dans...
Une vie de Chopin, tourner.
Ah bon, ça se tourne ici finalement?
Oui.
En France même?
Sur les lieux même, on va faire.
Ce fameux projet voit le jour quand même. Oui. On va te voir pianiste alors.
Non, tu ne me verras pas pianiste.
Enfin, pianiste, je dis ça, je sais bien que tu joues pas de piano personnellement.
Oui.
Mais qu'est-ce qui te double pour les parties piano?
Personne, il n'y a pas de piano.
Il y a pas de piano?
Non, il y a pas de piano.
Ils n'ont pas mis de piano dans la vie de Chopin?
Bah, en tout cas, dans celle-ci, il n'y en a pas, non?
C'est une vie nouvelle de Chopin, alors?
Bah, je ne vois pas.
Non, moi non plus, je vois pas exactement ce qu'on peut faire dans une vie de Chopin sans piano, ça me
va. Voilà ce qui s'est passé, c'est très simple. On m'a demandé, Monsieur Scott, est-ce que ça vous ferait plaisir de tourner une vie de Chopin? Je dis, mais est-ce que ça m'intéresse beaucoup?
Oui,
c'est vrai.
C'est quand même tentant.
C'est un très, très grand projet.
Oui, c'est quand même tentant.
Donc, alors d'accord pour la vie de Chopin. Maintenant, pour le piano, ça n'est pas possible. Je ne sais pas jouer de piano.
Ah oui, c'est gênant.
Puis je suis trop vieux pour m'y mettre maintenant. On n'a plus l'agilité dans les doigts.
Une question de doigté, peut-être.
Et de toute façon, en 15 jours, je ferai pas quelque chose de bien épatant.
Tu n'as jamais joué?
Jamais.
Ah bah oui, alors non, faut mieux t'abstenir.
Donc, alors, pour le piano, pas possible. Mais par contre, je joue très très bien de la trompette, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je vous propose, c'est un Chopin trompette.
Ah, tu leur as mis le marché en main, carrément.
Ah, bah, c'était un Chopin trompette ou pas de Chopin du tout, puis c'était.
Ah bon, c'était à prendre ou à laisser. Oui, t'as accepté avec une trompette ou pas du tout. C'est ça, oui. Ce qui fait qu'ils ont remanié le scénario, enfin, partant de là, quoi.
Remanié, c'est la vie exacte de Chopin, quoi.
Oui, il y a l'instrument qui change, quoi.
Oui, mais enfin, ça, c'est pas grave.
C'est pas très grave, bien sûr.
Non, c'est pas la vie de l'instrument qu'on fait, c'est la vie de Chopin.
Oui, c'est bien. De toute manière, qu'il soit trompette ou pianiste, c'est toujours le même, ça change pas.
Voilà, c'était au milieu des années 50, une rareté assez extraordinaire, la vie de Chopin par Poiré et Serrault, en l'honneur de mon invité qui les a bien connus l'un et l'autre aujourd'hui, Dominique Paturel. D'ailleurs, c'est l'histoire donc de Jerry Scott qui va tourner un film sur Chopin, et vous-même, Paturel, le cinéma est arrivé aussi forcément dans votre vie, même s'il n'a pas été au premier plan. Vous avez quand même eu des rôles importants avec Julien Duvivier, avec Christian Jacques, vous avez même été le James Bond français... dans Copland prend des risques, etc.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, j'appartenais malheureusement à cette génération de télévision qui était maudite au cinéma.
Ah oui.
Et à l'époque, si vous faisiez de la télévision, c'était incompatible avec le cinéma.
Oui, vraiment,
ah bah oui. Parce qu'on vous disait, vous avez une clientèle de télévision qui ne se déplacera pas pour aller vous voir au cinéma puisqu'elle vous voit chez elle.
Ah oui, c'est intéressant.
Donc les producteurs étaient très frileux. Et en même temps, comme ils savaient qu'on avait une forte audience, ils disaient pourquoi pas essayer. Quoi.
Et oui, parce qu'après Le Chevalier de Maison Rouge, il y avait eu notamment Lagardère aussi, qui a été un très grand succès avec Jean-Pia et d'autres.
J'ai fait énormément de feuilletons. Il y avait aussi le Bonheur Conjugal d'après André Mauroy, qui a été aussi un grand succès.
Voilà, Chérie Bibi.
J'ai fait des tas de feuilletons très importants.
Donc le cinéma était un peu fermé.
Un petit peu fermé, ouais. Mais c'est vrai que ça a été difficile. J'ai réussi à en faire quand même. Ils avaient fait une version cinématographique en deux époques du Chevalier de Maison Rouge qui est passé au cinéma sur grand écran et qui n'a pas été un succès du tout.
Ah oui. C'était vraiment deux mondes
très
séparés.
C'était la télévision, on mélangeait pas.
Vous avez quand même joué Le Diable et les Dix Commandements avec Julien Duvivier.
Oui,
et puis une belle distribution.
Oui, il y avait Daniel Darieux, Alain Delon.
Et puis aussi un des péchés capitaux revisité par Ionesco.
Les sept péchés capitaux, La Colère,
voilà.
Qui était un sketch écrit par Eugène Ionesco.
La Colère, ça vous
allait
pas tellement.
Et que j'ai joué avec une débutante qui s'appelait Marie-José Nat.
Joli.
Oui, qui était adorable. La colère montait parce qu'il trouvait, c'était un clown très amoureux, adorable, mignon et tout. Et un soir, voulait malheureusement qu'il trouve une mouche dans sa soupe. Et là, la colère le prenait, montait jusqu'à la chute finale où il y avait des tonnes de soupe qui coulaient dans les escaliers de l'immeuble.
Ah oui,
c'était
voilà.
À la Ionesco.
À la Ionesco. Une autre aventure, alors beaucoup moins connue, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer sur France Musique, Dominique Paturel, ça a été, si j'ose dire, votre rencontre avec un certain nombre d'autres comédiens, avec Duke Ellington, justement, que vous aimiez tant depuis votre jeunesse.
Ça a été la rencontre parce que Jean Villard a eu l'idée extraordinaire de lui demander d'écrire la musique de Turcaret,
voilà.
La pièce de Le Sage. Et j'ai vu un jour arriver au TNP dans la salle, on m'a présenté Monsieur Duke Ellington.
Il avait accepté.
Il avait accepté, il venait assister aux répétitions. Il est venu pendant 5 jours, et comme j'étais à peu près le seul de la troupe, Villard m'avait dit, j'arrivais à parler anglais. On a eu les Anglais puis les Américains à la maison en 44.
Au Havre.
Donc je parlais à 16-17 ans, je parlais couramment l'anglais. Donc je servais d'interprète. On lui avait donné une traduction du texte, et il était dans la salle avec un paquet de gitanes. Il ne fumait que des gitanes.
Ah bon ?
Et oui, et il écrivait sur son paquet de gitanes les thèmes. Il m'a dit, j'écoute, c'est les voix, le texte, ça ne m'intéresse pas trop. J'écoute les voix de chaque personnage et je choisis mon instrument. Pour Turcaré, ça va être un trombone. Pour vous, ça va être une clarinette. Pour la baronne, ça va être une flûte traversière, etc., etc. Et il marquait ça sur son paquet de gitanes, les thèmes qu'il allait donner. Et il est revenu après, avec ses chefs de pupitre, enregistrer la musique au TNP.
Malheureusement, même si France Culture a consacré toute une émission à cette aventure, on n'en a pas beaucoup de traces de cette musique de Turcaré, mais elle a été remontée voici quelques années, en 2012, par l'orchestre de Laurent Mignard, à partir des thèmes et des arrangements de Duke Ellington. Et je propose qu'on en écoute un petit extrait, c'est le final donc de cette musique de scène de Turcaré. La musique de Turcaré de Duke Ellington, à laquelle vous avez donc participé en 1961.
Mais vous savez que Duke Ellington, avant d'écrire la musique de Turcaré, avait déjà écrit une œuvre très importante. Il avait écrit des musiques de scène pour toutes les pièces importantes de Shakespeare.
C'est peut-être même ça qu'avait donné l'idée à Villard, d'une certaine façon. Dominique Paturel, en tout cas, merci d'évoquer ce moment assez extraordinaire. Et j'ajoute, vous nous disiez au début, vous aviez chanté souvent au théâtre, parce qu'à l'époque, il y avait souvent dans les pièces, et notamment peut-être dans les pièces de boulevard, des couplets chantés, etc.
J'ai eu la chance de créer une pièce sur Rossini.
Ah oui.
Où je jouais le personnage de Rossini, et il y avait un moment où j'étais chargé de chanter l'Agnus Dei de la petite messe solennelle.
Ah oui, là c'était du sérieux, là.
En m'accompagnant au piano. Et comme je ne sais pas du tout jouer de piano, j'avais appris. J'avais suivi des heures de cours avec une pianiste qui m'avait montré l'endroit où mettre les mains. Et naturellement, l'accompagnement avait été enregistré par cette pianiste. Et sur scène, même mes meilleurs amis ont cru que c'était moi qui m'accompagnais au piano pour chanter la News Day. Et puis j'avais joué à un labiche avec Marie-Paul Bell, où j'avais 5 chansons en direct avec l'orchestre dans la fosse, quand même.
Voilà. Mais ça, c'était vraiment une tradition qui remontait au temps de labiche, d'ailleurs, d'avoir
J'ai chanté des tas de fois dans des tas de pièces.
Dans des tas de pièces. Même sans connaître le solfège, comme vous nous l'avez dit. Voilà. Vous avez, en tout cas, oui, vous avez tout fait. Au début de l'émission, je vous citais dans cette phrase, le matin, je double, l'après-midi, je tourne, le soir je joue au théâtre, mais à une autre époque vous disiez le matin on fait de la radio, l'après-midi de la télé, le soir on joue au théâtre, la nuit on tourne un film. Parce qu'il y avait aussi la radio, la radio
énormément.
Que vous avez évoquée depuis
J'ai fait
Alger.
On faisait beaucoup de dramatique en direct avec les plus grands, avec Jean Topard, avec Claude Rich, avec la Comédie Française.
Les Maîtres du Mystère avec Micheline Boudet.
Les du Mystère, j'en ai fait des quantités avec mon ami Pierre Billard. Moi je passais ma vie à la radio. C'était une époque où presque les comédiens, il y en a que j'en connaissais, j'en ai grogné et des quantités, qui gagnaient leur vie à la radio.
À la radio. Et c'est comme ça aussi, en tout cas avec tout ce métier tellement riche que vous avez eu au fil du temps, que vous êtes devenu donc un des grands maîtres du doublage cinématographique. Il y a un moment où ça a pris vraiment le, pas le dessus, mais ça a pris une très grande importance dans votre activité.
Ça a pas pris le dessus, mais c'était le, avec toujours ce même miracle qui m'accompagne. J'ai été de plus en plus demandé, car on m'a tout de suite donné les rôles importants.
Voilà, vous avez été notamment Terence Hill, Omar Sharif, Anthony Hopkins, Michael Caine, entre autres.
Michael Caine, oui, oui. Et puis le fameux Dallas, bien sûr.
Et le fameux Dallas, évidemment, qu'on va écouter dans un instant pour le plaisir. Mais je crois que vous aviez fini par sympathiser, d'ailleurs, avec Larry Hagman.
Oui, je l'ai rencontré 4 fois.
Ah oui.
Qui était dans la vie un homme charmant, délicieux, voilà. Et très aimable.
C'est comme vous, finalement, parce que tout le monde dit et souligne que vous êtes un homme charmant, et pourtant, là, vous avez parfois la voix du méchant.
Il faut. Et... C'est un rôle de composition, dirons-nous.
Et on ne parle pas pareil quand on fait un méchant que quand on fait un gentil.
C'est-à-dire aussi, il y a une chose, c'est ce que je dis toujours aux gens, il y a la chose qui prime, c'est l'image.
Oui.
Quoi qu'on fasse. L'image est là pour donner l'humeur, pour donner l'état dans lequel est le personnage. Nous, on essaye de jouer comme il l'a joué le plus fidèlement possible, mais c'est l'image avant tout qui prime, donc notre voix ne fait que compléter.
C'est modeste.
Non, mais c'est vrai. C'est sûr qu'il faut jouer le rôle, bien sûr.
Ouais. Et puis, il y a toute la technique du calage sur le son sur l'image aussi. Que vous avez très vite maîtrisé en virtuose. Et dans ces 357 épisodes de Dallas, en tout cas, et notamment, par exemple, le retour, un petit extrait où vous êtes avec Bobby, votre frère, dans le retour de JR en 1996.
Ose dire que j'ai tort. Tu as tort. Alors pourquoi tu envisages de vendre South Fork? Et pourquoi ça te fait tellement plaisir que la famille se retrouve unie?
Peut-être parce que j'en ai assez de t'entendre justifier les coups tordus que tu fais dans le pays, en disant que c'est pour le bien des Ewing.
Mais parce que c'est vrai. Et puis de toi, moi, je crois que tu es ravi de posséder la société Ewing. De ranger tes bottes et ta selle pour partir chaque jour t'asseoir derrière ton bureau. Mais oui, Bobby, cette ville est à nouveau à nous. Oui, comme papa l'avait toujours voulu.
J'adore surtout le rire sardonique à la fin.
Eh ben ça, c'est une petite invention que je me suis permis.
Ah, voilà.
Parce qu'il n'existait pas dans la version originale. Et un jour, de bonne humeur et de plaisanterie, parce qu'on plaisantait beaucoup sur ces plateaux de télévision à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et un jour où il terminait sur une phrase particulièrement horrible, j'avais clos par un rire sardonique et tous mes copains s'étaient marrés. Et le directeur de plateau a dit « Oh, c'est formidable, on le garde ». Je lui dis « Mais non, c'est une connerie, il faut pas garder ça, j'ai fait ça pour rigoler ». Il me dit « Mais non, je t'assure, c'est pas tant, on le garde ». Et ils l'ont gardé. Et j'ai su par la suite que souvent Larry Hagman, qui venait souvent à Paris, écoutait à son hôtel le doublage de Dallas. Il l'a entendu, il a fini par le mettre.
Par le reprendre lui-même. Oui. Ah bah c'est extraordinaire quand c'est l'original qui copie le doubleur. Dominique Paturel.
Un juste retour des choses.
Dans toutes ces années, en tout cas tellement occupées, vous n'avez jamais cessé aussi d'aimer aller au spectacle, au cabaret. On pourrait évoquer vos sorties avec Hubert Deschamps, par exemple, merveilleux Hubert Deschamps.
Et Vire le jeu, tout est du philo et toute cette catégorie de gens qui m'ont fait rire toute ma vie.
Et vous disiez que les acteurs traînaient plus après le spectacle à l'époque de nos jours.
Oui, on ne se quittait pas, on sortait du théâtre après le spectacle, on allait boire un verre tous ensemble, quand ça n'était pas d'aller souper tous ensemble. Ouais. On se retrouvait à la Cloche d'Or où il y avait tous les comédiens de Paris qui se retrouvaient aussi. Comment ça a marché chez toi ce soir? Sympa, il y avait du monde. Ouais, nous aussi on a bourré. Ah bah bien. Ils étaient bons, non, ils étaient chiants. Bon.
Et vous êtes surpris parfois de voir que les comédiens aujourd'hui, chacun rentre chez soi.
Ah oui, tout de suite, c'est le bureau.
Ah oui, c'est très
ça me surprend, ce changement de...
La vie nocturne a un peu disparu.
C'était complètement.
Voilà. Et puis parmi vos camarades de sortie aussi, ou en tout cas ceux qui vous ont permis d'aller applaudir tous les grands chanteurs de variété, il y a Jean-Michel Boris.
Jean-Michel Boris, le directeur de l'Olympia, qui est toujours un de mes grands amis. Ouais. Nous téléphonons encore, ce qui m'a permis d'assister à toutes les générales de l'Olympia, j'y ai vu là tous les plus grands. J'étais à la fameuse dernière de Jacques Brel. J'y ai vu Beko, j'y ai vu tout le monde des tas de fois, j'y étais, toutes les générales, j'y étais, c'était merveilleux. Liza Minnelli, Sammy Davis Jr., j'y ai tout vu à l'Olympia, tout.
Vous avez, dans les chanteurs d'aujourd'hui, j'imagine encore des goûts particuliers, mais peut-être, tiens, on va écouter justement une chanson de Nicole Croisille.
Ah oui.
Pourquoi elle représente quoi pour vous cette chanson?
Parce que on a débuté ensemble dans une comédie musicale parfaitement inepte et ridicule qui s'appelait Cloche de mon cœur. Le titre à lui seul en dit très long sur la qualité technique et d'écriture. C'était une comédie musicale qui se passait sous les ponts de Paris entre des clochards un peu perdus de boissons. Et moi, j'avais une chanson, ma chanson d'entrée, j'avais 5 chansons, dont 2 duos avec Nicole. Et on s'est connus, là, dans la Comédie Comartin, qui était un petit théâtre en face de l'Olympia, qui n'existe plus. Et avec orchestre direct dans la fosse. Et là aussi, tous les soirs, j'avais une chanson d'entrée qui commençait par « Je suis à voile, et à vapeur, poum, poum ». C'était bien, quoi.
C'était pas très fin.
La haute littérature. Et cette comédie musicale avait eu un certain succès. Et on a découvert dans cette comédie Nicole.
Nicole Croisille, qu'on va entendre tout de suite. Mais d'abord, tiens, une autre petite pastille de doublage. Là, c'est la voix de Leslie Nielsen dans « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»
Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé. Cette femme doit être transportée dans un hôpital.
Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est?
C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin, pour le moment, c'est pas le sujet. Dites au commandant que j'ai à lui parler.
Tout de suite. Oser lui parler et lui dire que je le quittais. Mes yeux se posent ici et ailleurs, des souvenirs me parlent au cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix, le courage me manquait de moi.
C'était Nicole Croisille dans Téléphone-moi, encore une rencontre merveilleusement évoquée par mon invité aujourd'hui, Dominique Paturel, dont la carrière a commencé au Havre, quasiment au lendemain de la guerre, et s'est prolongée presque jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi votre vie aujourd'hui, Dominique Paturel?
Jusqu'à très peu de temps, je participais dans un centre culturel à Antony, où j'avais illustré des conférences sur le théâtre que faisait justement une de mes camarades de la rue Blanche, qui est restée fidèle et qu'on ne s'est jamais quitté d'amitié. Parce que je trouve qu'il y a tout un répertoire de pièces en un acte qu'on ne joue plus jamais.
C'est vrai.
Tous les Musset, tous les Jules Renard, tout ce théâtre qui n'est plus jamais joué nulle part. Et j'en donnais des lectures publiques et ça a eu un énorme succès. Et j'ai fini il y a pas longtemps, j'ai arrêté il y a un mois et demi, deux mois, à la fin du confinement.
Les grandes scènes parisiennes, elles ne vous manquent pas trop aujourd'hui ?
Non, parce que j'ai eu tellement de chance.
Oui, vous avez tellement joué
vous
devant
savez,
tellement de monde.
J'ai joué pratiquement sans arrêt toute ma vie pendant plus de 60 ans, donc... Ouais. Il faut se contenter quand même de ce qu'on a eu.
Bien sûr. Il faut dire d'ailleurs que parmi les tournants de votre vie, il y a presque 10 ans maintenant, il y a eu la disparition de votre première épouse, Nelly Benedetti, que vous connaissez bien aussi comme actrice de cinéma, notamment dans La peau douce de Truffaut et d'autres films. Oui. Et donc peut-être aussi par la suite, vous êtes éloigné de Paris pour retourner vers la Bretagne.
Non, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes d'appartement, donc j'étais obligé de changer mon fusil d'épaule.
Voilà. Et puis vous avez retrouvé aussi une nouvelle vie aujourd'hui avec votre seconde épouse, Marie-Claire Le Glatin, qui est elle-même alors une musicienne.
Marie-Claire, ma femme, travaille beaucoup avec Claude Lemel.
Et donc vous vivez avec Marie-Claire dans la musique plus que jamais, d'une certaine façon.
Tout à fait. Elle est omniprésente. Et alors elle a écrit quantité de textes. Elle a écrit toutes sortes de chansons depuis longtemps. Elle écrit sous le nom de Marie-Claire Le Glatin, puisqu'elle a commencé à écrire avant d'être ma femme. Mais déjà, elle écrivait. Je pense que c'est elle qui a écrit, pour moi, une des plus belles chansons d'amour que j'ai entendues de ma vie, qui est « Je suis ta maritime », qui est une tellement beau texte qu'elle n'a pas encore mis en musique. Mais là, on va entendre une de ses chansons.
Qui s'appelle « Kennedy Airport ».
Qui est une chanson de joie, qui a été écrite avant le confinement, parce que Kennedy Airport, ça représente quand même l'espèce de rêve du voyage, de l'Amérique. Ça reste toujours le mythe. Moi, je m'y suis posé deux fois, Kennedy Airport, quand l'hôtesse de l'air annonce « Ladies and gentlemen, we are landing on Kennedy Airport », il se passe quelque chose.
C'est vrai, on est à New York déjà.
C'est un endroit mythique. Et donc, elle a écrit cette chanson qui est faite de joie, d'espoir, la joie de partir, la joie du voyage.
Voilà.
Et là, les arrangements sur l'enregistrement ont été faits par un admirable musicien qui s'appelle Philippe Hervouet, qu'on entend à la guitare. Et la chanson Kennedy Airport est chantée par Rachel Place. Elle a une voix ravissante et elle chante cette chanson avec une délice exquise.
Et c'est donc sur cette chanson de Madame Paturel que nous allons quitter Dominique Paturel, avec qui c'était vraiment une joie de passer cette matinée à évoquer des souvenirs tellement riches auxquels il faudra sûrement
cette
revenir.
Cette joie a été partagée.
Merci beaucoup Dominique Paturel.
Et merci mille fois à vous.
À bientôt. Kennedy Airport par Rachel Place, une chanson de Marie-Claire Le Glatin, alias Marie-Claire Paturel, qui était aussi près de nous ce matin, puisque j'avais la joie d'accueillir le comédien Dominique Paturel.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis comme c'est jour de fête aujourd'hui sur France Musique, vous avez aussi rendez-vous pour la première fois de l'année avec notre ami Serge Elaïc. Serge, le spécialiste mondial des arrangeurs et autres chefs d'orchestre de variété, et justement, il est là ce matin.
Je dirais même de l'univers, allons-y.
Pour un portrait qui me passionne, cher
oui,
Serge.
Oui, c'est celui de Tony Hatch, en effet. Alors, après avoir suivi la semaine dernière votre grand entretien avec Petula Clark, eh bien, j'ai imaginé qu'interviewer Tony Hatch, compositeur et arrangeur tellement associé à la carrière de Petula, eh bien, ce serait une surprise pour Benoît Dutertre.
Oui, je suis très heureux.
Et grâce à David Adzis, proche collaborateur de Petula, j'ai pu entrer en contact cette semaine avec le fameux Tony Hatch pour évoquer son exceptionnel parcours. Alors, c'est en 1939 que Tony Hatch voit le jour en Angleterre. Il est fils de musicien amateur et très jeune, il compose diverses chansons et n'envisage pas d'autre métier que celui de la musique. Il travaille alors pour une petite édition à ce moment-là. Et en 1960, il n'a que 21 ans quand Look for a Star, une de ses chansons, est reprise avec un grand succès par un orchestre américain célèbre, celui de Billy Vaughan. C'est au début des années 60 qu'il est engagé par le label Pye et peu après, il va rencontrer Petula Clark. Il crée également son propre orchestre et pour cette formation, il compose entre autres Brazilian Mission.
Plus, c'est presque de la musique légère cette émission. Brazilian Mission de et par Tony Hatch, qui tient également le piano. C'était en 1969 et Serge Elaïc nous dresse le portrait de ce grand chef d'orchestre, arrangeur et compositeur britannique.
Ah oui, alors la rencontre avec Petula Clark va être déterminante pour les deux artistes puisque Tony Hatch écrit pour elle paroles, musique et arrangements du tube international Downtown que Petula chante en 1964 avec 3 millions de disques vendus à la clé. Il y a quelques jours, j'ai donc demandé à Tony Hatch quelle était sa chanson préférée parmi toutes celles, et il y en a beaucoup, qu'il avait pu écrire.
I think it would be very difficult to say that Downtown was not my favorite song because it is.
Je pense qu'il est très difficile de vous dire que Downtown n'est pas ma chanson préférée. Certes, il y en a d'autres que j'aime parmi toutes celles que j'ai écrites, mais Downtown reste au top de la liste. You were the man behind Tony Hatch, Petula Clark est probablement une ou votre artiste préférée.
Of course.
Évidemment.
There can be nobody else. she is a wonderful singer.
C'est une formidable chanteuse.
Not just a case of her being a lovely person.
Ce n'est pas seulement une charmante personne. C'est vraiment une grande artiste et elle chante toujours fantastiquement.
You have no project.
Vous avez des projets de concert avec Petula?
No, I really wish that would happen.
Mais j'aimerais tellement que cela arrive.
De
mon côté, je peux vous dire que je suis vraiment très prêt.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you.
Downtown, bien sûr, Petula Clark, c'est l'enregistrement original avec la musique et les arrangements de Tony Hatch. Et je rappelle qu'il a fait aussi, moi, dans le genre que j'adore, Serge Laïc, les sublimes arrangements de Lagadou, même s'il n'avait pas écrit la musique.
Et là, il a aussi écrit les paroles de Downtown.
Dans Downtown.
Ouais. Alors, après Downtown, les succès s'enchaînent avec Petula Clark, les chansons Call Me, par exemple, You Are The One, Don't Sleep In The Subway et beaucoup d'autres. On a même dit de Tony Hatch qu'il est le Burt Bacharach anglais. Superbe référence quand on sait la célébrité de ce compositeur, d'immenses succès qui ont fait le tour du monde comme les chansons The Look of Love ou Walk On By. Tony Hatch a la particularité d'écrire souvent paroles et musiques de ses chansons, comme Downtown, on vient de le dire, et je lui ai demandé si c'était pour lui une nécessité de faire ainsi.
Yes, I always enjoyed doing that.
Oui, j'adore cela. Mais un problème s'est posé car j'ai enregistré d'innombrables chansons et je n'avais pas toujours le temps d'écrire les paroles. Si bien que des personnes comme la chanteuse Jackie Trent a écrit des paroles pour moi. Tony Hatch, écrivez-vous toujours la musique avant les paroles? Non, pas toujours. Parfois, les paroles viennent en premier. J'ai écrit deux ou trois chansons avec Petula et j'ai signé les paroles et Petula la musique, notamment pour You Are The One, une chanson que j'adore. Vous aimez beaucoup les musiques latines, je crois. Oui, tout à fait, et spécialement les musiques brésiliennes. Entre autres, la bossa nova.
I just love that rhythm and that feeling.
Et j'aime les rythmes créés pendant les 60s, notamment par Sergio Mendes.
Masquerada, c'était encore donc l'orchestre de Tony Hatch en 1967 avec cette belle couleur de toutes ces orchestrations.
Absolument. Alors, grâce à ses compositions comme Downtown ou Call Me, eh bien, Tony Hatch a eu l'honneur d'être chanté mais par les plus grands artistes internationaux et je lui ai demandé quel était alors son ressenti. C'est une joie immense, c'est excitant. Quand je pense notamment à Sinatra,
Sammy Davis Jr.
Ou à la remarquable chanteuse brésilienne
Eliane Elias.
Eliane Elias.
And she's
Elle a interprété ma chanson Call Me de formidable façon. Toniat, vous avez eu beaucoup de succès avec Call Me finalement. Trini Lopez en a enregistré aussi une super version. Sa version est différente de celle de Petula, mais elle est excellente et je l'aime vraiment beaucoup.
If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stand by you. You've gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do.
Et c'était donc Trini Lopez qui vient de mourir d'ailleurs.
Tout à fait, il y a un mois.
Laïc, il y a un mois dans Call Me, une composition de Tony Hatch.
Parole et musique encore une fois. Alors Tony Hatch m'a confié écrire un livre à l'heure actuelle, peut-être une autobiographie, et il a aussi quelques projets pour des émissions de radio là-bas en Angleterre. Pour finir, à côté de son immense travail pour la chanson, eh bien Tony Hatch a composé de la musique pour d'innombrables séries télévisées britanniques, comme par exemple Man Alive, dont nous écoutons le générique.
Et toujours l'excellent orchestre de Tony Hatch en 1965 dans cette musique de télévision Man Alive. Merci Serge Laïc pour ce portrait et pour l'interview exclusive donc de Tony Hatch.
Exclusive pour Étonnez-moi Benoît.
Avec vos traductions, bravo.
Merci à vous Benoît, à la prochaine fois.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, la technique soit de Boukorsa avec Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et samedi prochain, j'aurai la grande joie d'accueillir Macha Merrill.
À réécouter sur francemusique.fr.